Marc Wisenbourg n'était pas ce qu'on appelle un type inquiet. Il avait ce truc rassurant qu'ont les héros dans les films pour enfants, la conviction que la pire des situations n'est jamais perdue. Cette nuit, il tournait en rond à cause d'un gamin de 8 mois. Wilfried, il s'appelait. Sa mère, 21 ans, vivait avec un débile qui lui tapait dessus. Marc recevait le couple dans l'après-midi. Il allait devoir leur expliquer qu'il risquait de perdre la garde. Il avait 43 ans. Si vous le croisiez en soirée et lui posiez la question « Sinon, dans la vie, vous faites quoi ?» il hésitait à mentir. Inventer un métier qui n'appelle pas d'avis, informaticien ou contrôleur de gestion. Puis il avouait du bout des lèvres qu'il était dans le social. Si vous insistiez, et dans quel secteur le social ? Marc répondait qu'il était éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse. Vous le preniez alors pour un flic, il vous rétorquait « Non, j'aide des gosses en danger ». Il n'entrait pas dans les détails. Quand les dossiers étaient trop durs, trop crus, presque toujours des histoires de viol, il soufflait seulement « C'est flippant la quantité de merde que je dois brasser ».
L'humeur vagabonde sur France Inter.
La plupart des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse ont souvent eu, eux aussi, des débuts difficiles dans la vie. Études laborieuses, famille éclatée, parfois un premier métier décervelant. Et puis un jour, l'évidence, si eux ont pu s'en sortir, échapper à l'échec programmé, c'est qu'il y a sûrement quelque chose à faire pour tenter d'arracher quelques gamins à cette spirale du malheur et de la délinquance. L'engagement d'une poignée d'hommes et de femmes dans cette mission, si peu valorisée par les politiques, est pourtant essentiel. Car comment se satisfaire, année après année, de ces jeunes vies gâchées dès la naissance, dans un pays par ailleurs si prompt à dénoncer la ségrégation sociale et raciale chez les autres ? Le père de Mathieu Palin était éducateur. Depuis toujours, il l'a entendu parler, parfois, de ces gamins exposés aux violences, aux abus, à l'abandon, et qui devaient se reconstruire en foyer. Peu de réussite pour tant d'échecs, qui à chaque fois pèsent durement sur l'équipe qui les a pris en charge. Devenu journaliste, Mathieu Palin a, pour son premier roman, choisi de raconter le parcours d'un jeune garçon, Wilfred, abandonné à 8 mois par une mère toxicomane et dont les accès de violence à l'adolescence l'amèneront dans un centre fermé de la PJJ. Pour entrer dans la tête de ses enfants et de leurs éducateurs, il a intégré, 6 mois durant, une équipe à Auxerre. Son livre « Sale gosse » vient de paraître à l'Iconoclaste. Bonsoir Mathieu Palin.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste indépendant, vous avez travaillé à 6 mois, à 21, donc vous êtes habitué à ce type d'enquête au long cours. Et j'ai vu que dans les sujets de vos articles, vous aviez toujours été attiré un peu par les mauvais garçons. Vous avez fait beaucoup de sujets sur des sportifs violents. Qu'est-ce qui vous fascine tellement dans ces moments ou dans la vie de quelqu'un, d'un jeune à qui, en principe, l'avenir est ouvert, ces moments où tout se fracasse tout d'un coup pour des choses qu'on porte et qu'on ne sait pas toujours très bien expliquer.
Bah justement parce qu'on ne sait pas très bien les expliquer. Moi, j'ai grandi à Ris-Orangis, qui est une ville qui n'est pas pire que plein d'autres villes en banlieue parisienne, mais qui a ce grand avantage d'être une ville dans laquelle on trouve encore une réelle mixité sociale. Moi, je fais partie, on peut dire, d'une grande classe moyenne, avec une mère qui était institutrice et un père qui a en effet été éducateur. Et ce qui m'a permis de côtoyer dans cette grande classe moyenne beaucoup de gamins qui, eux, faisaient partie peut-être de la classe moyenne basse, comme certains le disent, et qui du coup partaient avec, je le voyais très bien, dès que je rentrais chez eux, ou même c'était des enfants qui pouvaient être dans ma classe, je voyais très bien qu'on n'était pas exactement sur un pied d'égalité. J'avais peut-être un peu plus de chance qu'eux. Déjà parce que mes parents étaient tous les deux ensemble à la maison et que autour de moi j'avais pas mal de gosses qui avaient pas de père par exemple. Et ça c'est quelque chose que je peux analyser aujourd'hui. À l'époque j'avais pas forcément conscience que ça allait faire de moi un journaliste obsédé par les questions de prison, d'inégalité, d'injustice et qui m'attirait forcément vers les écorchés vifs. Je me suis rendu compte en fait là après avoir terminé ce livre que je l'avais écrit pour la première fois depuis 8-9 ans que je suis journaliste en allant dire droit au but.
Et pourtant, j'imagine, Mathieu Palin, que lorsque vous étiez enfant et que votre père rapportait à la maison ses soucis, quelques dossiers, et que vous entendiez ce qu'il se disait, j'imagine que ça ne devait pas forcément vous plaire.
J'en avais pas vraiment conscience, en fait, parce que mon père faisait très attention à pas ramener trop de boulot à la maison, comme on dit, et donc je percevais qu'il y avait des problèmes d'enfants, parce que c'était des prénoms qui me semblaient être des prénoms d'enfants qui étaient prononcés à table quand il en discutait avec ma mère, mais j'avais pas le détail. J'ai eu le détail assez tard, en fait, l'ampleur du problème. Des gamins qui étaient enfermés dans la toxicomanie, dans l'héroïne, à l'âge de 13-14 ans, j'en avais pas conscience quand le prénom était prononcé par mon père. Je l'ai su après, je l'ai su en fait il y a très peu de temps, quand j'ai fait presque un travail de journaliste avec lui en mettant autour d'une table, en disant « Ok, bon, maintenant on va faire une interview, une vraie, et tu vas me raconter ce que tu as fait de 85 à 90, puis après quand tu as bossé là et là. » Et c'est là que des prénoms sont revenus.
C'est d'ailleurs votre père qui a inspiré ce personnage qui ouvre votre livre, le personnage de Marx, ouais. L'éducateur le plus gradé, enfin le plus ancien, qui est au milieu de cette équipe d'éducateurs avec des profils finalement assez différents, parce que on n'imagine pas, mais c'est souvent des gens qui viennent de boulots qui n'ont rien à voir avec la protection de l'enfance, avec la justice ou avec la police. C'est des gens qui viennent d'un peu partout. Et au fond, vous qui avez passé 6 mois avec une équipe d'éducateurs, ce qui les motive au fond, est-ce que c'est aussi par rapport à leur propre parcours personnel? Est-ce que c'est cette envie de dire, bah, finalement, nous, soit on y est tombé, on s'en est sorti, soit on l'a frôlé et on voudrait pas que ça arrive à d'autres. C'est un peu ça.
Mon père, il faudrait qu'il accepte peut-être d'en discuter avec un professionnel pour savoir quelle est la raison première qui l'a poussé à devenir éducateur. Bon, lui, son histoire personnelle fait que c'est écrit dans le livre sous le personnage de Marc, mais c'est quelqu'un qui a eu la blessure de ne pas connaître son père et qui, d'une certaine manière, a peut-être pour des raisons X ou Y, voulu ensuite devenir éducateur pour peut-être donner ce que lui avait manqué. Il y en a d'autres, je pense à certains éducateurs qui ont grandi dans des familles comme il y en avait dans les années 70, des familles d'immigrés où il y avait 14 enfants à la maison. C'est pareil, on ne peut pas être élevé exactement avec la même dose d'amour quand il y a 14 enfants à la maison que quand il n'y en a que deux. Et c'est des gens qui deviennent ensuite éducateurs et qui s'occupent de gamins qui sont déjà cabossés par la vie à l'âge de 10-12 ans. Aujourd'hui, pour parler du terrain et de reportage qui a, disons, dérivé en roman, les éducateurs que j'ai rencontrés, moi, sont beaucoup plus professionnels, professionnalisés, qu'il ne l'était il y a 20 ans, il y a 30 ans, parce qu'aujourd'hui, il vous faut des diplômes, en fait, pour devenir éducateur. Il faut avoir Bac plus 2, il faut rentrer par les concours de la fonction publique, ce qui était déjà le cas à l'époque, mais on vous demandait juste d'être motivé et puis d'être capable de faire face à des gamins qui pouvaient péter les plombs. C'était ça, l'examen d'entrée. Aujourd'hui, on a des professionnels.
Alors, Mathieu Palin, dans votre livre, évidemment, si on suit surtout le parcours de Wilfred, dont nous allons parler plus tard, mais il y a aussi des portraits sur le vif de ces gamins que, au fond, le cinéma, la télévision nous a appris à repérer dans les reportages sur les écoles des quartiers, comme on dit. On va écouter une première lecture de votre livre. C'est Wilfred qui se trouve à l'école, dans une classe où il y a déjà un garçon qui pose problème.
Karl vivait seul avec sa mère dans une tour à 2 rues de la gare de Grigny. Il avait de larges épaules, une mâchoire carrée, des bras musclés et un tournevis dans le sac. C'était, en somme, un gentil garçon qui pouvait devenir dangereux. À cause des travaux, certains cours se tenaient dans des préfabriqués. Karl effritait des morceaux de bois dans du chewing-gum qu'il enfonçait dans les serrures. Le temps que le prof appelle le gardien et qu'il trouve une solution, l'heure était passée. Ensuite, les jours d'évaluation, Karl s'était mis à simuler des malaises. Il s'évanouissait de sa hauteur comme dans les films. En le voyant inerte sous la table, les yeux dans le vague, les filles hurlaient « Il est mort !» et le tumulte dans la classe suffisait à annuler le devoir. Le prof de français, M. Lombard, le plaça d'office au premier rang. C'était un grand échalas aux cheveux blancs qui terminait sa carrière en ZEP pour gagner des points de retraite. Il faisait cours avec un maître en bois, une règle jaune qui l'abattait comme une épée sur son bureau pour obtenir le silence. Un matin, il la brisa par le milieu. Un morceau atteignit Karl au visage.
« Sur le Coran, je vais te goumer, tu fais quoi là, fils de pute ?»«
Karl, rasseyez-vous, y a pas de rassis-toi, t'es un ouf !»
se tournant vers les élèves.
« Voilà, il m'a frappé, bah, j'en ai rien à foutre, vous êtes témoin !»
Wilfried gueula.
« Hé monsieur, frapper un élève, ça va chercher loin !»
Rama cessa de se balancer et dégaina son portable.
« Rama, tu snaps ? Filme tout, qu'on ait les preuves !» lança Karl.
Il articula chaque mot en fixant l'objectif.
« Collège Albert Camus, Ris-Orangis. Monsieur Lombard vient de me frapper à la tête avec ce bout de bois. »
Il brandit le morceau de règle brisée. Sur la vidéo, on voyait le professeur, hagard derrière son bureau, une moitié de règle dans la main. Les mots se bousculaient dans sa gorge sans parvenir à former quoi que ce soit d'intelligible.
« J'espère que vous avez de la maille de côté, » lança Wilfried. « Parce que vous allez être viré, c'est du 100%. Vendredi, croyez pas, on sera là pour vos bails de Stendhal et compagnie. Votre prochain cours, vous le ferez à Pôle emploi. »
Mathieu Palin, en écoutant la lecture de cette page de votre livre « Sale gosse », on pense à des films qu'on a vus, mais on se dit aussi que c'est des scènes auxquelles vous-même, vous avez dû assister.
Oui, oui, oui. Ça, je dois le confesser, il y a très peu d'inventions dans ces pages-là. C'est des scènes que j'ai vécues parfois, et pas seulement en observateur. Quand j'avais l'âge de Wilfried dans le livre... Je pense que j'étais pas forcément un élève modèle dans une classe. Et ce que je voulais rendre compte en même temps en racontant ce genre de scène, c'est qu'en fait, on n'a pas besoin d'être un délinquant pour foutre la merde, entre guillemets, si vous me permettez cette expression. C'est que y a un effet d'entraînement qui est d'autant plus fort qu'on a 15 ans. Et que on se cherche une identité, on se cherche des amis, on se cherche tout court. Et le lieu de l'école est un moyen de s'affirmer, de s'imposer et de s'opposer à ce qui marque l'autorité, notamment les profs. Et moi, j'étais comme ça. Et j'avais autour de moi des gamins pires que ça. Et le fameux Monsieur Lombard, il s'appelle pas Monsieur Lombard, mais je me souviens bien de lui. Et c'est vrai que c'était des scènes dans lesquelles le dialogue était impossible parce qu'il y avait un tel conflit de génération que quelqu'un qui arrive à 65 ans, 66 ans, face à des jeunes de 14 ans qui parlent de toute manière pas la même langue, parce que la langue qu'on parle à 14 ans dans une classe, c'est une langue vivante qui évolue, ce qu'on a entendu, ça peut paraître choquant pour certaines oreilles, mais mine de rien, c'est la langue qui est parlée aujourd'hui. Et certains profs de 65, 66 ans, ils comprenaient rien.
Mais c'est surtout, on le sait bien, hélas, enfin, on est assez alerté. C'est sur ce moment des classes de fin de collège, de début de lycée, où tout d'un coup, la coupure va se faire entre ceux qui vont finalement rentrer dans le rang, suivre des études, pouvoir décrocher éventuellement un diplôme et faire leur vie. Et puis ceux qui ne vont jamais s'adapter et qui, justement parce qu'ils sont devenus des petits caïds à l'école, vont finalement devenir des petits caïds dans leur quartier et des vrais problèmes, et pour la justice et pour eux-mêmes.
Oui, après, là, ce qui est la nuance, elle est, je pense, dans le fait qu'à 15 ans, on reste un enfant à qui tout peut être pardonné. Et je pense que ce qui est important, c'est de se rendre compte que les conneries qu'on fait à 15 ans, on n'a pas l'impression qu'elles déterminent notre avenir. Je me souviens pas, moi, de quelqu'un dans ma classe, à cette époque-là en tout cas, qui ait sincèrement été concerné, se soit senti concerné par l'avenir avec un grand A, quoi.
Alors, vous décrivez d'ailleurs dans votre livre, qui est très cinématographique, mais d'ailleurs on sait que vous avez été beaucoup influencé par le cinéma, ce sont des scènes très rapides qui se succèdent. Il y a de temps en temps Wilfried qui est au milieu, d'autres fois ce sont d'autres enfants, d'autres jeunes. Et en fait, on passe très vite de l'école à ces foyers, à ces centres ouverts ou à ces centres fermés, où les plus durs d'entre eux se retrouvent. Ils ont tous un problème de gestion de la colère et de la violence, mais parce que ce sont souvent des jeunes qui viennent de familles où la violence, l'alcool, la drogue, c'est récurrent, ça prend une ou deux générations déjà. On va écouter une autre lecture, c'est dans un centre où il y a une éducatrice pour un certain nombre de gamins à l'heure du petit déjeuner.
C'est le lendemain que ça a vraiment dégénéré au foyer. Moussa refusait de passer le Nutella. « Donne-le, sale feu, je vas !» cracha François. Moussa lécha la cuillère en agitant le pot au-dessus de sa tête comme une de ces peluches de manège qui se dérobe au dernier moment. « Tu me zaef, donne ou je te plante !» répéta François. Moussa lui lança un quignon de pain au visage et l'invita à niquer sa mère. « Parle bien, tu tiens pas à la vie ou quoi? Le mec, son blaze, c'est François, et il fait le fou avec moi !» François quitta la table. On l'entendit monter les escaliers 4 à 4 et Wilfried pensa qu'il en resterait là. Une porte claqua. Il réapparut à l'entrée de la cuisine, le poing serré sur le manche d'un couteau. En voyant la lame briller sous le plafonnier, Dounia se fit la réflexion que, en effet, cela faisait un moment que les couteaux de cuisine disparaissaient. Elle eut juste le temps de pousser Moussa dans la première chambre et de fermer derrière eux. François poignarda la porte en hurlant comme un possédé. Quand les flics arrivèrent, ils se tapaient le crâne sur le sol. « Ils sont où vos collègues ?» demanda une policière, tandis que Dounia recomptait les gosses un par un. « En réunion, au milieu ouvert, je suis seul aujourd'hui. » La policière ôta sa casquette pour lisser sa queue de cheval. Elle fit un tour sur elle-même. La fente dans la porte était suffisamment large pour y passer une main. Elle souffla. « Putain, c'est shining votre taf. Sans déconner, même armé, je le fais pas. »
Mathieu Palin, cette petite scène, elle explique bien aussi à quel genre de problème les éducateurs, toujours en nombre insuffisant pour le nombre de jeunes qui arrivent dans ces centres ouverts ou fermés, ils se trouvent confrontés. Ils ne sont pas des flics et ils doivent gérer une violence qui est presque dans les gènes. Et d'ailleurs, c'est ce que vous décrivez en parlant de votre personnage principal, Wilfried, parce que lui, il a l'air au départ d'avoir un cursus tout à fait tracé. Il est fort en football, il est déjà recruté dans un club sportif et en fait c'est juste parce qu'il a des bouffées de violence qui le poussent à se battre qu'il va être éjecté, sortir et se retrouver dans les centres fermés de la PJJ. Comme s'il y avait à l'intérieur de tous ces gamins une histoire familiale qui fait qu'ils sont incapables de mettre des mots dessus, alors ils tapent.
Oui, c'est un peu ça. C'est l'image de la grenade dégoupillée, en fait, qui peut exploser un peu à n'importe quel moment, on ne sait pas trop quand. Après, il y a différents stades, bien sûr. Il y a des enfants qui sont des cas, il y a certains psychotiques qui ont 14-15 ans, qui se retrouvent dans des foyers, et c'est en général eux qui pètent rapidement les plombs. Mais en tant qu'éducateur, on doit être prêt à se battre.
Physiquement, vous voulez dire.
Tous nous l'ont dit. Cette scène-là qui vient d'être lue, c'est pareil, il y a quasiment pas d'invention du tout, même si ce n'est que Wilfried n'était pas concerné par cette scène-là dans la réalité, mais elle m'a été racontée mot à mot par une éducatrice, justement d'Auxerre, avec laquelle j'ai passé pas mal de temps. Sa collègue à côté disait que elle avait pris un coup de poing par une jeune fille, et le collègue qui était à côté dans la cuisine disait que lui, il s'était fait péter le nez. C'est une violence qui est là et qui un jour explose. Alors leur boulot, c'est justement de travailler sur cette violence pour savoir à la fois d'où elle vient et comment est-ce qu'on peut la
contenir. Mais est-ce que dans leur équipe, il y a des psys ?
Bien sûr, ouais. Il y a des psys, et puis il y a ce qu'ils appellent des réunions de synthèse dans lesquelles l'éducateur vient se livrer à l'équipe pour confier ses doutes, ses problèmes, à quel moment il a l'impression que ça coince avec la famille, avec l'enfant. Et les collègues autour prennent des notes et puis ils disent bah, écoute, peut-être que tu devrais faire ça, peut-être que tu es finalement trop proche de cet enfant, peut-être que tu devrais lui laisser un peu plus d'espace, peut-être que en fait là tu es en train de le perdre, il faudrait que tu refasses un pas vers lui. C'est vraiment de l'artisanat en fait.
Thank you.
a secret chord. That David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah. Maybe there is a God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew you. And it's not a cry that you hear at night. It's not somebody who's seen the light. It's a cold and it's a broken
heart.
Passé les premières semaines de privation, la vie au CEF n'était pas si rude. Wilfried connaissait les internats. Au début, tout paraissait insupportable, et un jour, vous vous leviez sans rechigner, vous aviez faim à l'heure du déjeuner, vous vous laviez les dents avant de vous coucher. Il s'était fait une raison. Un matin, il aurait 18 ans, et s'en serait fini de la PJJ. En attendant, il butait toujours sur la même putain de question. Comment vas-tu gagner ta vie ? Nina venait le voir tous les 15 jours. Elle lui avait raconté l'histoire d'un collègue, Teddy, qui avait recroisé un gamin par hasard. Pendant 4 ans, il a été son référent avec des allers-retours en CEF, des conneries comme toi, des vols, des menaces, des agressions. Puis il y a eu les violences sur éducateurs. Passage à l'acte institutionnel, ils appellent ça. Et quand le petit a eu 18 ans, le suivi s'est arrêté. Mon collègue, son boulot, il le fait pas parce qu'il doit le faire, mais parce qu'il a l'impression d'être utile. Alors il fait des pieds et des mains pour garder le lien. Et au bout d'un moment, il perd le gamin. Wilfried avait l'impression de connaître la fin. Un jour, le petit revient dans sa vie. Il lui dit « Je me suis fait tabasser, des mecs me cherchent, je dors sous un pont à Soisy. » Le collègue appelle les centres d'hébergement d'urgence, lui achète un portable, met du crédit dedans et lui file même un peu de fric. Il se fait un sang d'encre, quoi. Wilfried hocha la tête. Un mois et demi après, c'était là, ça date de la semaine dernière, ce que je te raconte. Il le croise chez Leclerc avec un caddie rempli de bière. Des marque-repères qui te font des trous dans l'estomac. Il lui dit « Attends, tu te foutrais pas un peu de ma gueule ? Je te harcèle pas, je suis plus ton éduc. Mais pourquoi tu réponds pas quand je t'appelle ?» Le gosse avait la tronche ravagée par la tise, grêlée comme un variolé. « J'ai pas de portable, il répond. » Le collègue a dit « D'accord. » Il a payé son caddie et retenu ses larmes sur le parking. « Pourquoi tu me racontes ça ?» demanda Wilfried. « Je bois même pas. » Lui non plus, il buvait pas. C'était un sportif qui pensait que la roue finirait par tourner. Wilfried gonfla le torse. « Si je devenais SDF, tu me prendrais chez toi ?» Il ne croyait pas une seconde qu'il puisse tomber si bas. « Probablement pas, » répondit Nina. Elle n'en savait rien.
Mathieu Palin, dans cette scène entre Wilfried et son éducatrice Nina, il y a ce dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois ce lien très fort qui parfois se tisse entre un éducateur et un enfant précisément, un jeune, et puis cette notion aussi de collectif, c'est-à-dire que l'éducateur doit à la fois s'impliquer et se protéger, ce qui n'est pas toujours facile. Vous qui les avez fréquentés pendant 6 mois à Auxerre, ce sont des liens qui se tissent et qui risquent parfois d'entraîner l'éducateur sur des terrains où il risque beaucoup lui-même de perdre une partie de lui-même.
Oui. Bah en fait, c'est une position complètement intenable. On vous dit sans arrêt, donne tout pour sauver ce gosse, parce que tous ceux qui sont passés avant toi ont échoué. Et en même temps, on te dit, attention, ne franchis jamais la ligne jaune. Il faut jamais que ce gamin il pense que tu vas remplacer sa mère ou que tu rentres dans sa vie, parce que le lien, il dure le temps que dure la mesure. La mesure
jusqu'à 18 ans.
Jusqu'à 18 ans, parfois moins. Parfois, il est condamné à être suivi par la PJJ le temps de, pendant 6 mois. Puis quand vous le rencontrez, en fait, à 14 ans, vous n'avez pas notion de la temporalité. Quelqu'un qui rentre par effraction dans votre vie, s'il rentre, c'est que vous l'avez accepté. Il n'a pas vocation à sortir dans 6 mois. Et pourtant, c'est ce qu'on demande à la PJJ et à ces éducateurs-là. Donc, il y en a plein qui enfreignent les règles. On peut pas faire autrement, de toute manière. Moi, enfin, mon père, je sais qu'il l'a largement fait. D'autres amis qui étaient éducateurs aussi ont emmené des gamins en vacances, par exemple. C'est complètement interdit.
Et en fait, dans votre livre, on se rend compte que le centre fermé, le CEF, qui au début est très mal ressenti par Wilfred et ses compagnons, au fond, au bout d'un moment, il procure une sorte de sécurité et ça se passe pas si mal. Mais c'est une prison, oui. Pour jeunes.
C'est une mini-prison, parce qu'il y a des établissements pénitentiaires pour mineurs qui sont quand même encore plus durs. Mais oui, il y a énormément de règles dans un centre éducatif fermé. Quand vous lisez le règlement, vous avez l'impression que vous avez droit à rien. Et puis, petit à petit, mine de rien, vous avez quand même des activités. Le but dans ces centres, même s'ils sont fermés, c'est marqué dans le nom, c'est de proposer aux jeunes de s'ouvrir par des activités qu'il n'a jamais faites. Par exemple, la randonnée, par exemple, des arts plastiques, de travailler en groupe. Donc, y a énormément de choses. Encore une fois, c'est de l'artisanat. On essaye de s'adapter aux jeunes qui sont là à ce moment-là. Mais ça reste extrêmement disciplinaire quand même.
D'ailleurs, dans votre livre qui est assez noir, Mathieu Palin, il y a ce moment lumineux où ces gamins se retrouvent pour la première fois en montagne, dans les Pyrénées, et où tout d'un coup, ils découvrent une vie avec des couleurs et le plaisir physique de se dépenser des métiers, des gens qui élèvent des animaux ou qui font du rafting. Il y a quelque chose qui s'ouvre pour eux. Et il y a aussi quelques pages parfois où vous évoquez le problème des filles, qui est un problème souvent encore plus dur que celui des garçons, parce que ce sont des filles dont les mères ont été absentes, le père inconnu, la drogue. Et pour s'en sortir, les filles se prostituent. On va écouter un dernier extrait de votre livre. C'est Viviane, que Wilfried rencontre et dont il tombe amoureux, au moment où elle va enterrer sa mère.
Viviane sortit de son sac un texte rédigé à la main. Depuis l'estrade, l'assemblée paraissait ridicule. 5 chaises occupées sur la centaine sorties par des types des pompes funèbres. Viviane tapota le micro du bout des doigts. « Maman, on appelle ça une oraison funèbre. Le but est de raconter combien tu as été une femme formidable. Combien tu vas me manquer. Je vais me contenter de la vérité. Je ne te connais pas. Ce que je sais, c'est que tu ne voulais pas d'enfant et surtout pas d'une fille. Je sais que ton père était un enfoiré. Je sais que ta mère t'a laissé tomber. Je sais que je suis arrivé sans prévenir et je te prie de m'en excuser, je n'avais pas le mode d'emploi. Plus tard, on m'a expliqué que tu répétais ce que tu avais connu et qu'on ne peut pas éduquer quand on n'a pas reçu d'éducation. On appelle ça la reproduction. Pour faire simple, maman, ça veut dire que les pauvres restent pauvres. Et que les femmes violées font des filles qui font le trottoir. Je ne t'en veux pas. Je sais que tu as essayé. Si j'ai des enfants, un jour, je te promets de faire mieux. » Viviane froissa son texte et le laissa tomber au sol, utilisant sa main libre pour serrer celle de Wilfried. Il y eut un moment d'hésitation, le temps que le gamin à l'œil étrange trouve le bouton sur la chaîne Wi-Fi. Et la voix rauque d'Amy Winehouse monta sous les poutres du crématorium. Pour sa mère, Viviane avait choisi Tears Dries on Their Own. Une chanson d'amour raté. Une chanson de regret et d'actes manqués. You don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity.
Mathieu Palin, dans ce livre, on se rend bien compte que les éducateurs dont vous dessinez les portraits, les profils, ils ne se font pas beaucoup d'illusions sur l'importance que l'administration, la politique accordent à leur métier. Leurs moyens sont misérables. Ils ont l'impression de tenter de boucher un barrage qui s'écroule avec leurs doigts. Mmh. On se rend bien compte que, à part l'argument politique pendant les campagnes qui consiste à dire « enfermez-les dès 16 ans et qu'on n'en parle plus », ce secteur de la jeunesse en danger, franchement, n'intéresse absolument personne.
Non. D'ailleurs, il y a très peu d'éducateurs qui disent la vérité quand on leur demande ce qu'ils font dans la vie. C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé de voir des gens qui ont un métier dont ils sont fiers quand ils vous en parlent en privé et qui vous disent à peu près tous la même chose, c'est-à-dire que je suis mal payé, très mal payé même, et puis ils gagnent en général tous moins de 2000 euros par mois après des années d'expérience. Ils sont très mal payés pour quand même réparer les enfants des autres. Et pourtant, ils disent tous que pour rien au monde, ils changeraient de métier.
Est-ce que ce livre, Sale Gosse, Mathieu Palin, vous l'avez du coup, j'imagine, envoyé à cette équipe d'Auxerre que vous avez suivie pendant 6 mois et peut-être même aux gamins qui étaient là? Vous avez eu des retours?
Je suis allé les voir. Ouais. Je suis venu avec un carton de livres et j'ai fait la distribution à tout le monde. Et pour ce qui est des jeunes, oui, je leur ai envoyé des livres. Et ce qui est drôle, et c'est très difficile à croire, mais j'en ai croisé un dans la ligne 9 du métro il y a pas plus tard que 10 jours, alors même que j'avais un livre dans la main. Et sa réaction a été très drôle, c'est qu'il m'a pas cru quand je lui ai donné le livre. J'ai dit, mais écoute, il y a ton histoire là-dedans, elle est à la fin, mais je te jure, ce que je faisais quand je te voyais là il y a plus d'un an maintenant, je te mentais pas, il y a vraiment quelque chose au bout. Et ça m'a assez ému en fait de le voir descendre du métro avec ce livre dans la main. Je sais qu'il le lira pas aujourd'hui, mais il le lira peut-être dans 4 ans ou dans 5 ans ou dans 10 ans. Et ça me fait me dire que ça n'a pas servi à rien.
Effectivement, Mathieu Palin, on vous souhaite que ce livre ne serve pas à rien. Peut-être que aussi certains politiques pourraient en prendre de la graine. Enfin bon, n'espérons pas trop non plus. En tout cas, c'est un livre qui se lit vraiment avec la boule au ventre et qui est tout à fait intéressant. C'est votre premier livre, il y en aura sûrement d'autres. Ça s'appelle « Sale gosse » et ça vient de paraître aux éditions de l'Iconoclaste. Merci beaucoup Mathieu Palin d'être venu nous voir aujourd'hui. Au revoir, bonne route.
Merci.
Nous nous retrouverons la semaine prochaine aux environs de 19h20. Et bien sûr, après les informations de 20h, vous avez rendez-vous avec Xavier Le Herpeur pour une heure en série. Très bonne soirée à l'écoute de France Inter.